Good afternoon. Let's begin our session.
Bonjour à tous. Nous allons commencer notre séance de l'après-midi avec le comité consultatif sur la sécurité et la stabilité. Nous souhaitons la bienvenue à nos collègues du SCA. SSAC, nous avons quelques points de l'ordre du jour qui ont été proposés. Je pourrais peut-être céder la parole à M. Patrick Folstrom, président du SSAC, pour nous présenter les thèmes dont nous allons débattre aujourd'hui. Merci, Heather. Je suis le président de SSAC. Je suis vraiment très heureux d'être ici parmi vous. Il y a quelques membres de SSAC qui sont ici présents aujourd'hui. Parmi nous, je voudrais qu'ils lèvent la main. Quelques-uns sont à ma gauche, il y en a qui sont sur le côté. Comme nous l'avons dit avant cette réunion, de la réunion entre le SSAC et le GAC, nous avons la possibilité d'identifier chacun en tant que personne pour pouvoir avoir un peu plus, mais aussi pour pouvoir poser des questions dans les deux directions, pour pouvoir mieux nous comprendre et faire disparaître dans la mesure du possible les malentendus de plusieurs rapports que nous avons écrits. Avant de commencer avec l'agenda spécifique, je voudrais faire une petite description de ce que chacun fait au sein du SSAC. SSAC est composé à l'heure actuelle par 38 personnes. Il y en a qui ont quelques résolutions dont les résolutions ne sont pas encore complètes, mais la taille ou le nombre de membres du SSAC est de 38. Il y a eu, avec le temps, des gens qui sont partis, des gens qui sont revenus. En 2010, nous avons fait un changement important concernant la gestion des membres. Nous avons changé les nominations pour 3 ans. Et nous renouvelons un tiers des membres chaque année. En 2010, nous avons nominé les personnes qui allaient prendre des postes de 1, 2 ou 3 ans, avec des mandats de 1, 2 ou 3 ans. La publication que nous avons faite récemment a inclus quelques points que je vais décrire très rapidement. Jusqu'ici, nous avons un rapport sur le point LES. C'est une initiative que nous avons prise. Nous avons le SAC 52 qui constitue une réponse aux questions du conseil d'administration sur la délégation des TLD. Et enfin, pour 2011, nous avons produit à la fin de l'année un rapport sur la structure et la terminologie des TLD, ainsi qu'un conseil sur le blocage des DNS que nous avons. C'était une demande du GAC à laquelle nous avons répondu à la dernière partie. Le groupe SAC est un groupe dans lequel on désigne des membres parmi ceux que vous voyez sur l'écran. Il y a quelques groupes de travail comme le groupe de travail sur l'internationalisation. Et il y a aussi un groupe de travail qui donne des indications sur les rapports futurs, y compris pour une partie des blocages des DNS. En un certain sens, je ne dirais pas que c'est une demande du GAC, parce que nous avons émis le SAC 50. Il y a eu d'autres membres de la communauté des CAN et du GAC, et là, nous avons une demande qui nous a été posée pour continuer à travailler de façon plus approfondie. La deuxième partie se rapporte à DNSSEC et cela se rapporte à la modification du changement de la clé de la racine pour le DNSSEC et ses conséquences. Nous avons des réunions de diffusion, dont celle-ci, et nous avons des réunions avec d'autres organisations de soutien et d'autres qui nous ont demandé d'être présents. Pour cette réunion en particulier, que nous avons eue lundi, Nous avons commencé à réaliser des réunions avec des organismes d'application de la loi. Je ne veux pas dire que c'est un groupe de travail, mais nous avons un groupe de tâches avec certaines personnes, des organismes d'application de la loi et des gens du SSAC pour voir si nous pouvons faire davantage de progrès pendant la réunion d'ICANN, pendant la réunion conjointe d'ICANN. Si nous allons considérer les documents que nous avons créés sur ce SAC 50, vous savez ici, vous avez ici beaucoup de connaissances à cet égard, mais nous allons répéter de toute façon certaines notions. Nous demandons instamment aux gens de penser aux bénéfices et de les comparer aux dommages qui peuvent se produire, et en particulier, quel pourrait être l'impact d'un blocage sur les parties qui veulent communiquer et qui sont en dehors du monde administratif. Il y a aussi un document sur la taxonomie du WHOIS. C'est un document que nous avons créé de notre propre initiative. Nous avons écrit beaucoup de documents auparavant, beaucoup de rapports qui se rapportent au WHOIS et qui indiquent l'importance qu'il a. C'est une terminologie que nous partageons tous, mais ces rapports disent aussi si les personnes parlent de la base de données de WHOIS, du protocole de WHOIS. Parce que parfois, il est difficile de dire que nous voulons éviter un risque internationalisé. Bon, nous parlons du besoin de changer le protocole, ou bien parlons-nous de la possibilité d'avoir des données internationalisées sur la base de données. Nous n'avons pas pu voir davantage à propos de ça dans la communauté d'ICANN, et c'est pour ça que nous aurons à écrire un nouveau document. Les prochains thèmes abordés dans ce rapport concernent une suggestion pour développer un cadre uniforme pour pouvoir accéder aux données qui nous donnent des mécanismes, qui nous fournissent des mécanismes rendant possible la construction des différents mécanismes d'accès avec différents accès et des contrôles d'authentification. En dessus, ce qui s'est passé, c'est que le conseil d'administration a dit au personnel d'ICANN de réaliser des consultations coordonnées de cette manière. Le conseil d'ICANN a tenu compte de nos recommandations et ils ont dit « Ok, il faut que nous fassions quelque chose à cet égard ». Le 18 février de cette année, on a fait une feuille de route pour poster des commentaires publics. Le 15 mars, je crois que c'est jeudi cette semaine, il y aura un atelier ouvert au public. À notre avis, c'est quelque chose de très bon et nous sommes très contents de savoir que ce document a fait que l'on commence à développer ce type d'activité. Nous espérons que cela va aider aussi pour le travail futur qui est bien sûr un travail déjà commencé dans la communauté d'ICANN. Nous avons 52 rapports. Un conseil sur les TLD, c'était une demande du conseil qui nous était parvenue et nous avons recommandé une approche très conservatrice sur les TLD IDN à caractère simple. Nous avons demandé que la délégation dans tous les scripts ne soit pas appliquée par défaut et qu'elle ne soit utilisée que pour le cas où il n'y aura pas de risque de confusion ou de dommage. Ce document est très bref, comme le document précédent. Il n'a que 2 pages, avec 2 pages de plus de recommandations. Si cela vous intéresse, vous devriez lire ce document. Nous expliquons très ouvertement, très clairement, que nous savons qu'il y a des cas où l'on a besoin de ces caractères et nous encourageons ICANN à aller de l'avant et essayer de résoudre ce type de questions dans l'avenir, ce type de questions sur la délégation. Lorsque nous avons présenté cela, on nous a demandé « Que voulez-vous dire lorsque vous parlez de confusion ou possibilité de confusion pour les TLD qui ont plus d'un TLD ?» Et il faut que nous répondions à ça. Le problème avec les TLD ayant un seul caractère, c'est qu'il n'y a pas de contexte au TLD lui-même qui puisse aider à différencier et à savoir de quel script il s'agit pour l'écriture de ce TLD. Si le TLD a 2 caractères, et l'autre, l'un est différent. Cela peut être vraiment confus par rapport à d'autres choses. Nous allons encore voir d'autres distinctions entre les TLD. Si vous n'avez qu'un caractère, ce caractère ne peut pas être aussi confus que celui qui a deux caractères, que ce TLD qui a plus d'un caractère. Il y en a qui disent, écoutez, attendez un tout petit peu. Si un mot n'a qu'un caractère, l'être humain et l'œil vont regarder de plus près. L'œil de l'être humain, la vue de l'être humain, a beaucoup moins de difficultés pour voir qu'il y a un seul caractère pour, pour un texte. Mais vous devez vous souvenir que les TLD ne sont qu'une partie d'un domaine beaucoup plus long, potentiellement plus long. Il faut que nous nous assurions que le TLD ayant un seul caractère est suffisamment clair pour que les gens puissent voir la différence entre deux domaines très longs où le reste du nom des domaines est très long et identique. Je vois beaucoup de personnes qui se demandent de quoi je parle. OK, regardez le rapport. Voyez-moi pendant la pause. Café, c'est quelque chose d'assez compliqué. Mais ce qui est important ici, c'est de faire attention. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure et comme on l'a mentionné sur le rapport de l'architecture d'Internet, nous ne pouvons pas défaire la délégation d'un domaine. C'est ce que nous allons voir plus tard. Si nous avons découvert qu'il y avait une erreur là. 53, et c'est la dernière diapo et le dernier rapport. Nous avons pris l'initiative d'écrire un rapport sur les points d'hôte. Nous parlons de domaines qui n'ont pas de points. Pour ce cas particulier, il s'agit de domaines sans points. Par exemple, nous avons une page web dont l'adresse à laquelle on arrive par http://. Exemple, voilà une adresse sans points ou une adresse email qui serait patrick@sans-aucun-point pour le nom de domaine. Nous allons commencer à voir certaines indications qui se rapportaient à tout ce qui venait du marketing et des idées, par exemple. Si l'on parle des TLD des marques, ou bien si on peut se servir d'un lien pour parler de /marque. Bon, nous nous sommes dit là, nous nous sommes demandé si cela pouvait fonctionner, et la réponse est non. La première raison pour que cela ne fonctionne pas, c'est que les protocoles SMTP qui sont utilisés pour le courriel exigent une adresse avec un point. La deuxième raison se rapporte au fait qu'il y a une énorme quantité de logiciels, systèmes d'exploitation, des navigateurs et d'autres mécanismes de résolution ou de répertoire de services. Qui tout simplement n'envoie pas un seul word ou token au DNS. Si vous êtes sur votre navigateur et que vous n'écrivez qu'un seul mot, ce mot ne va pas aller au DNS. Beaucoup de personnes qui connaissent le DNS se disent « Non, il n'y a pas de personne pour les noms de domaine sans points. » Et c'est vrai, mais le problème est que le query ou l'étiquette ne lit pas le DNS. Alors, comme je l'ai dit, ceci se rapporte aux mises en œuvre dans les systèmes d'exploitation et dans les navigateurs actuels. C'est-à-dire, quelqu'un peut le changer et ce que nous allons voir, c'est qu'il y a des systèmes d'exploitation comme le Macintosh, l'ancien Macintosh ou le Windows XP. Il y a peut-être quelqu'un qui l'a là depuis très longtemps. Et cela veut dire que même si tous les fabricants ont changé leur logiciel, il y aura un bon temps qui va se couler avant que l'on voit un effet.
That we're advocating.
Nous étions plusieurs, y compris moi-même, qui soutenions cela. Et moi, je le soutenais personnellement. Mais enfin, que nous écrivions ce rapport, c'est ça que je veux dire. Je dois dire que je suis personnellement étonnée des problèmes que susciteraient les domaines sans points. J'ai pensé que cela n'allait être qu'une rumeur et que l'on allait changer d'avis, mais en fait, les choses se sont passées à l'inverse. Voilà pour le contexte. Heather, la parole à toi. Merci beaucoup, Patrick. ta présentation a été très large par rapport au nombre des sujets sur lesquels s'est focalisé le ESSAC, les IDN à caractère unique. J'estime qu'il y a plusieurs parties d'ICANN qui ont fait des commentaires à cet égard, mais le GAC n'a pas émis d'opinion et c'est quelque chose que le GAC considérera et sur quoi il fera des considérations ou des commentaires dans les mois à venir. On nous avait demandé de donner un conseil, de fournir un conseil sur les IDN à un seul caractère, à caractère unique. Mais je me demande si les collègues ont des questions sur les thèmes que vous avez présentés ou peut-être sur un autre thème que l'on voudrait poser ou soumettre au SAC tant que vous êtes là, à la Commission européenne, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je remercie Patrick et tous les membres du ESSAC d'être ici présents. J'espère que ce n'est pas parce que vous aviez besoin d'un renforcement dans la participation à la discussion. J'ai deux ou trois questions. Je veux savoir si j'ai bien compris si quelqu'un dans le conseil ou dans la structure de l'architecture a dit que nous ne pouvons pas faire de délégation du nom de domaine parce que cela est considéré une erreur. Est-ce que j'ai bien compris? Pourriez-vous l'expliquer? Oui, le IV a émis un rapport au début du mois de février, je crois que le 8 février, par rapport aux caractères qui peuvent être utilisés dans un TLD, parce qu'à l'heure actuelle, les caractères existants disent que les caractères doivent être des caractères alphabétiques dans les RFC. Et il y a une discussion sur les implications et les raisons pour lesquelles on débat à propos de ce point dans l'IAB, pardon, dans l'IRB. Bon, nous discutons de cela parce qu'il y a une différence dans les différents fournisseurs de logiciels qui ont interprété la question alphabétique de manière différente dans le contexte des IDEN. Lorsque nous parlons des caractères ASCII dans les noms des domaines et dans des adresses semblables, cela a été interprété ou compris comme si c'était des adresses de A à Z avec un trait d'union au milieu. Ce qu'ils ont dit dans ce rapport, c'est que une fois que nous aurons mis en œuvre le TLD, je ne comprends pas exactement les termes, je ne m'en souviens pas exactement, il faudrait que je revoie le rapport. Mais il est très difficile de supprimer cela parce qu'il y a une implication là-dessus. C'est quelque chose de semblable à ce que le ESSAC a cherché. Si, par exemple, un registre se perd, c'est là que nous avons les normes pour ce qui va se passer avec ce registre et la résolution du DNS. Parce que si vous supprimez un TLD que les gens ont déjà commencé à utiliser, a des conséquences importantes. Dans la perspective du IRB, c'est quelque chose que nous ne voulons pas faire. Nous ne voulons pas causer des erreurs parce que cela coûte de l'argent. C'est coûteux parce que vous avez un domaine qui a été approuvé. Est-ce que vous pourriez continuer, Madame la Présidente, s'il vous plaît? Merci beaucoup. C'est plus clair maintenant. Je vous remercie. Pourriez-vous me donner des références sur ce rapport de l'IRB dont vous parlez? La deuxième question se rapporte à la confusion des IDN à caractère unique. Je me demande jusqu'à quel point le ESSAC, je vais le dire d'une autre manière. Quelle est l'expérience sur laquelle est basé le ESSAC par rapport à la question de la confusion, qui est un thème. Voyons un peu comment nous le percevons, comment nous percevons cela, ce problème. Ma dernière question, pour ne plus intervenir, excusez-moi de mon ignorance ou de manque de mémoire, votre rapport sur le DNS est quelque chose d'utile pour la Commission européenne, nous l'avons même cité. La question est la suivante. Le blocage des adresses IP se trouve dans le contexte du ESSAC ou bien est-ce qu'on bloque d'autres ressources sur Internet? Et si c'est le cas, est-ce que vous considéreriez la préparation d'un rapport semblable sur le DNS et d'autres ressources? du DNS. Merci. En ce qui concerne la confusion et l'expérience et l'expertise, je voudrais d'abord expliquer une question de processus par rapport au rapport ESSAC qui peut vous aider à évaluer ce que je dis. Les rapports de ESSAC sont créés par le ESSAC et les personnes qui sont membres du ESSAC. Ils sont publiés tels qu'ils sont. Il n'y a pas de période pour les commentaires publics, ni rien de ce genre. Ce qui est bon de cette procédure, c'est que vous pouvez, de votre propre gré, décider si vous voulez suivre ou pas ce conseil. Il est très facile de se dire, bon, moi, je ne fais pas confiance à ce type de rapport. Vous devez prendre votre propre détermination. Ce que je dis, c'est que pour pouvoir prendre une décision, c'est vous qui devez décider si vous nous faites confiance ou pas. Quant au caractère, nous avons été très prudents pendant la dernière réunion lorsque nous avons nommé les membres du comité du ESSAC. Parce qu'il s'agit non seulement d'évaluer la capacité de la personne que nous allons approuver, mais aussi d'évaluer si les capacités de cette personne pour une question spécifique peuvent couvrir la brèche du ESSAC par rapport aux connaissances que le ESSAC devrait avoir. Une partie de cette évaluation au cours des dernières années, c'est que nous avons ajouté du personnel de différents points du monde avec une expérience linguistique, une expérience technique linguistique. Voilà la première partie de ma réponse. La deuxième partie est la suivante. Pour cette question spécifique sur la confusion, nous avons eu recours aux gens des Unicode spécifiquement. Je vais expliquer un peu plus. Nous parlons des gens qui ont créé l'ensemble des caractères d'Unicode, c'est des institutions universitaires. Nous avons parlé avec eux et c'est le point clé. Pour parler avec eux, pour savoir s'il y a un type de métadonnées connectées au point de Unicode pour que sur des algorithmes, nous puissions calculer et nous puissions dire si les deux points du code sont confus ou pas. Et la réponse est la suivante, non. C'est-à-dire, pour décider si deux caractères sont confus, à notre connaissance, il faut que nous trouvions un certain type de, que nous trouvions une manière de faire une inspection et de faire une discussion. Il y a une zone grise, ce n'est pas quelque chose qu'on puisse trancher, que nous puissions décider par un algorithme. Un autre point que nous avons trouvé dans ce rapport et qui est étonnant, c'est que les gens ont parlé tout le temps de Unicode à propos de la confusion entre les caractères latins, les cyrilliques et le grec. Ce groupe spécifique de script, lorsque nous écrivons le rapport, ce que nous cherchons, c'est de savoir si ce groupe de caractères ou de script pour lesquels nous avons des confusions entre les groupes, non seulement à l'intérieur du groupe, ou voir s'il y a d'autres cas. Pour collecter les données de cette partie du rapport, nous avons parlé avec l'équipe des variantes et l'un des groupes de travail, le groupe de Denis, qui est le groupe des variantes. C'est justement de cette façon que la communauté IGAN ad hoc a trouvé d'autres groupes de scripts. Le ESSAC a conclu de cela qu'il pourrait y avoir d'autres groupes de scripts qui n'ont pas encore été détectés. Et c'est aussi la base de notre recommandation au sens où il faut que l'on étudie davantage et de façon approfondie sur cela avant de continuer à parler sur la confusion ou le caractère confus. Un autre cas, c'est que nous avons le CCTLD Fast Track de l'IDN et nous avons un algorithme dont nous avons cru qu'il allait être bon pour le processus d'évaluation. Il était déterminé en deux étapes. Mais c'est un fait que nous avons jusqu'ici trois demandes et où les gens ne discutent pas beaucoup s'il y a deux caractères qui sont confus ou pas. Il s'agit de l'interprétation de l'algorithme lui-même. À ce point de vue, nous pouvons conclure qu'il n'est même pas facile de traduire directement les deux processus d'évaluation des caractères existants et puis ensuite le répandre pour l'utiliser avec d'autres caractères. Nous avons besoin d'une liste spéciale où l'on puisse voir ce qu'il faut réviser Dans un TLD à un seul caractère ou un caractère unique, on pourrait considérer le programme des points et identifier qu'il y a 95% des cas à oui ou à non, mais le dernier 5%, ou je ne sais pas si c'est 1 ou 10%, mais il faut évaluer la possibilité d'une vérification manuelle. Voilà, c'est le travail que nous avons fait. Une bonne partie des conclusions que nous avons sont basées sur le fait que lorsque nous avons posé des questions aux experts ou aux personnes, ils ont dit non, il y a d'autres problèmes ici. Merci beaucoup, dit Heather. Merci beaucoup, Patrick. Est-ce qu'il y a des questions? C'est Patrick qui parle. Oui, j'ai oublié cette partie de la réponse. Quant aux adresses IP, cela fait partie de notre travail parce que nous sommes le comité de sécurité, le comité consultatif sur la sécurité et la stabilité du CAN. Alors, nous sommes censés répondre à toutes sortes de questions, y compris celles de la discussion. L'une des choses dont nous avons parlé lorsque nous avons parlé avec l'ASO, c'est de quelle façon nous allons établir ce travail en collaboration. Parce que nous pensons que pour 2013, il y aura une gestion des adresses IP qui pourrait avoir un impact sur la stabilité. Quant au blocage spécifiquement, nous sommes loin du blocage des noms de domaine, mais il faut voir aussi d'autres niveaux de blocage aussi. Merci beaucoup, Patrick. L'Italie et les Pays-Bas maintenant. L'Italie prend la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je voudrais vous demander, d'expliquer l'évolution de WHOIS. Nous avons parlé de la terminologie de WHOIS et des nouveaux protocoles qui peuvent faciliter l'accès aux données. Mais est-ce que vous avez une idée sur le cadre temporel nécessaire pour ceci, quelles vont être les conséquences sur les problèmes liés à la qualité des données, s'il y avait des conséquences, hein? Probablement, non. Il est probable que les mauvaises habitudes continuent à être le fait des registrants. Je voudrais avoir une idée de à quoi on s'attend sur cet aspect. Merci beaucoup. L'une des personnes de SSAC, c'est mon vice-président, Jim Galvin, et c'est lui qui est responsable du WHOIS. C'est pourquoi je lui cède la parole. Merci beaucoup, Patrick. Je crois qu'il y a deux questions et je voudrais apporter quelques précisions sur la première. Vous demandez quand cette structure de la nouvelle terminologie sera mise en œuvre et utilisée. Le personnel s'occupe de documents. Ils ont déjà commencé à s'en servir. Ils vont commencer à utiliser cette terminologie et cette structure dans l'avenir, au lieu de modifier tout le travail existant ou tous les travaux qui sont en cours. La voie pour adopter la terminologie proposée sera adoptée. La deuxième question serait la suivante. Les avantages d'utiliser cette terminologie lorsque le nombre des TLD sera doublé ou qu'il sera découplé? C'est la réponse de l'Italie. J'ai vu une deuxième question, dit Jim Galvin. Nous estimons et nous croyons que la terminologie va nous permettre d'établir un meilleur cadre pour les discussions à propos du WHOIS et les sujets qui sont liés à celui-ci. Pour nous focaliser en particulier sur trois choses que nous sommes en train de traiter, les données de registre, des services de répertoire et des protocoles d'accès. Je crois que l'un des problèmes des discussions de WHOIS et ce qui, toutes les discussions qui sont liées à celle-là, c'est que nous nous servons du terme « huiz » et fréquemment les parties parlent et ils donnent un contexte différent à ce word. Voilà le problème sur la terminologie. L'objectif est d'améliorer la qualité de ces discussions et permettre aux personnes qui débattent de parler de la même chose et de faire référence à la même chose. Je crois avoir entendu une deuxième question sur la qualité des données Ruiz. Est-ce que vous avez posé cette question? Est-ce qu'il y avait une autre question à part celle-là? L'Italie répond. Quelles sont les meilleures pratiques qui vont améliorer la qualité des données? C'est ce que moi, je voulais demander. Je voulais avoir une évaluation sur les délais pour l'adoption de cela. Je voudrais savoir si le personnel a déjà commencé à adopter cette terminologie. Et je voudrais savoir si cela déboucherait sur un nouveau standard, une nouvelle norme. En ce qui concerne les délais, quel est le cadre temporel que vous prévoyez pour que cette application soit en effet? Je crois que la réponse, dit Jim Galvin, si nous n'avons pas de réaction extrême de la communauté qui nous dit qu'il s'agit d'une mauvaise idée, je crois que nous avons déjà commencé la transition et elle va continuer jusqu'à ce que l'on ait fini. L'objectif est de commencer avec la nouvelle terminologie, avec les nouveaux travaux. Au fur et à mesure qu'ils auront commencé, nous le ferons et tout ce qui est en cours d'élaboration ou en cours d'élaboration sera appliqué. Donc, en termes de délai qui vient de commencer, tout cela se terminera lorsque le travail existant sur le WHIS sera terminé. Et à partir de là, il n'y aura pas de problème de terminologie. Heather cède la parole aux Pays-Bas.
En ce qui concerne le blocage, c'est un problème qui revient à chaque fois. J'ai deux questions là-dessus. Tout d'abord, j'ai la même question que j'ai posé lors de la dernière réunion en ce qui concerne le blocage des TLD. Nous avons eu une expérience avec le triple X, une expérience malheureuse. Et je suis encore très curieux, même si cette expérience n'a pas été très heureuse pour certains pays. Je voudrais voir le côté positif, dans le sens où nous avons pu voir qu'il s'agit d'une string assez sensible. Et je voudrais savoir quels sont les symptômes d'un blocage possible. Est-ce que, bien sûr, c'est une question difficile, mais je voudrais avoir des questions quand même, parce que cela nous permettrait de nous guider sur la manière de traiter des strings, des chaînes qui pourraient être sensibles, qui pourraient faire l'objet de blocage. Ma deuxième question, vous envisagez, parce que j'ai entendu parler un peu quelque part, envisagez-vous un suivi par rapport à votre première recommandation sur le blocage, la première recommandation faite dans votre rapport? Pour répondre à votre première question, nous ne savons pas. Les problèmes que nous avons eus au niveau du SAC et que nous avons toujours, c'est que nous n'avons pas identifié personne qui fait ce type de mesure. Qui seraient les renseignements que vous nous demandez? Donc, le blocage dont nous discutons, c'est plutôt un blocage sous la forme de, par exemple, le retrait dans le domaine de deuxième niveau d'un TLD ou, par exemple, des ISP qui gèrent des résolveurs et qui demandent à ce que explicitement certains noms de domaine ne soient pas résolus. C'est plutôt ça. Et pour la deuxième question, oui, nous avons un suivi qui analyse les types de blocages qui existent et quelles sont les caractéristiques de chacun de ces blocages. Mais en ce qui concerne le blocage au niveau du TLD, la réponse, c'est que nous ne savons pas. Merci, l'Australie. Merci. Tout d'abord, merci Patrick et l'équipe du SAC pour ces discussions qui sont toujours très utiles. En ce qui concerne la question du WIS, je rebondis sur le premier commentaire. En ce qui concerne le WIS, nous avons entendu aujourd'hui le rapport de l'équipe de suivi du WIS. Nous sommes en train d'analyser ces nouvelles propositions. La dernière technologie du WIS, pardon, la dernière terminologie par rapport au WIS était assez confuse. J'aimerais pourtant vérifier ce qui a été dit par l'Italie. L'Italie parlait du potentiel de nouveaux protocoles de WIS dont on a déjà discuté, non pas au niveau de la terminologie. Je ne sais pas si on pourrait préciser un petit peu cette question ou approfondir cette question. L'objectif de la discussion serait celui-là. Patrick dit, en ce qui concerne le nouveau protocole, nous savons que l'équipe s'en occupe. En ce qui concerne les acronymes qui s'utilisent, on sait qu'ils sont trop longs. Et nous allons devoir travailler là-dessus. L'important, c'est de se mettre d'accord sur une terminologie au plus tôt possible. En ce qui concerne le protocole en lui-même, le protocole de WIS ou un nouveau protocole, il existe de différents protocoles qui ont été développés, au moins deux. Il y en a deux, l'ITF, ou peut-être qu'il y en a quatre. Moi, j'en ai fait deux que personne n'utilise vraiment. Mais ce que l'ITF a fait, qui peut être plus intéressant, c'est que pour l'un des protocoles, le IRIS, ils ont préparé un document d'exigence pour le protocole. Et par la suite, ils ont produit le protocole. Devrait-on utiliser IRIS? Mais c'est un protocole difficile à mettre en œuvre. Ce n'est pas le meilleur protocole, mais pourtant, la communauté a décidé de ne pas mettre en œuvre le protocole IRIS, mais plutôt se pencher sur d'autres protocoles ou d'autres documents. Lorsque l'on envisage d'adopter un protocole, l'ITF a développé le IPv6. Combien d'entre vous utilisez IPv6 dans vos pays? Il n'y en a pas beaucoup, donc finalement, c'est impossible de vous dire. Merci, Patrick. La prochaine, j'ai le Royaume-Uni. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Quand je vois le SSAC dans l'ordre du jour de mon agenda, j'ai un saut de cœur. Et pas d'une façon romantique. Un haut de cœur, mais pas de façon romantique. On sait que c'est les experts suprêmes du DNS, mais mon esprit est un peu plus appréhensif, car je pense toujours que je ne vais pas être capable de suivre tout ça. Parce que je n'ai pas... peut-être les antécédents académiques pour pouvoir suivre ce type de questions. Donc, mon approche, c'est plutôt d'identifier quel est l'intérêt public global qui est qui sous-tend toute cette analyse et tout ce travail technique. C'est ça ce que j'essaye de comprendre. Si j'ai bien compris, il y a un travail en cours sur le blocage qui va, bien sûr, dans le sens de l'intérêt public global. Mais en ce qui concerne les activités par rapport à cette activité, lorsque les activités seront, lorsque cette activité aura fait l'objet d'un rapport, on pourra la mettre en rapport avec l'intérêt public global pour que ce soit plus clair pour les gouvernements de connaître quels sont les enjeux au niveau de la stabilité et de la résilience de ce système que l'on veut préserver. Voilà le premier point que je voulais soulever. Le deuxième point concerne la question des IDN à caractère unique. J'interprète ce qui a été dit en tant que la possibilité d'identifier un certain type de limitation d'opportunité. Si cette question de confusion ou de capacité de porter à confusion avec les IDN à caractère unique, je voudrais savoir, excusez-moi, je n'ai pas bien compris, mais je ne sais pas comment cela est en rapport avec les codes de pays où nous avons des noms de domaine à caractère unique. Donc, d'après ce que j'ai pu interpréter, il y a une espèce de décalage entre les noms de domaine internationalisés et ce dont vous parlez. Est-ce que j'ai bien interprété ou pas? Bien sûr que c'est un sujet très important. Et c'est important de tendre vers une internationalisation du système et des noms de domaine pour contrôler les variantes et la diversité au niveau des scripts. Merci. Merci. En ce qui concerne l'intérêt public, merci pour cette suggestion. Nous essayons en amont, lorsque nous créons un rapport, nous essayons de penser qui seront les personnes qui vont le lire. Donc, quand nous créons les lignes générales de notre rapport, nous essayons de voir quelle partie du document sera incluse en fonction des lecteurs. Vous avez parlé du blocage. Je suis très content de ce que ce point soit soulevé, car je pense que cela, on peut dire par rapport à cela que c'est un sujet sur lequel on peut débattre. Il y a une communication qui est très importante, qui est faite. Il est important que l'on puisse communiquer par rapport à ce sujet pour voir si on peut tenir compte du fait que cela doit être résolu. En ce qui concerne les IDN à caractère unique, l'état des choses, c'est que le conseil d'administration n'a pas des IDN à caractère unique dans la première série. Le conseil d'administration a dit non. Le conseil pourrait changer d'avis. Et la raison pour laquelle dans SSAC, on encourage l'ICANN à dire explicitement qu'il y a un besoin au niveau des IDN à caractère unique, c'est l'une des raisons qu'on a mentionnées par rapport au fait qu'il y a des cas valables où ce type de caractère unique sont nécessaires. Donc, même si ce ne sera pas inclus dans la première série, bien sûr, c'est un sujet dont il faut s'occuper. Car si on continue par ce chemin, pourront voir le jour. Et des complications pourront voir le jour. Merci, Patrick. La Suède a la parole. ma question rejoint un petit peu celle qui a été posée par mon collègue du Royaume-Uni. Je voulais savoir quel type de problème de politique publique, d'intérêt public peut être identifié dans ce type de problématique. Peut-être qu'il faudra se focaliser sur cette question. Je crois que c'est une question que les gens du SSAC ne peuvent pas répondre dans une réunion comme celle-ci. Il faudrait en discuter dans une autre réunion pour voir comment on peut travailler ensemble. Mais nous encourageons le GAC à réfléchir à cette question, car vous savez qu'il y a un grand nombre de personnes ici présentes et il y a aussi des conseillers qui peuvent nous aider à répondre à ces questions que vous avez. Par exemple, une question très spécifique, et je vous remercie d'avoir posé cette question qui nous a amené à rédiger le SAC 50, parce que le fait que le GAC soit précis nous a indiqué que la précision du GAC dans sa réponse nous a permis d'écrire un CSAC très spécifique. Les Pays-Bas ont la parole. Pour revenir à la question posée par Maria, nous avons des consultations nationales en cours dont nous devrions nous servir pour évaluer les nouveaux TLD, qu'il s'agisse de string ou d'autres propositions. L'un des critères principaux, c'est la sécurité et la stabilité du DNS. Mais nous sommes bien sûr conscients que nous n'en sommes pas des experts. On ne connaît pas bien le sujet. Ce n'est pas notre domaine de spécialité. Un autre critère qui pourrait servir de base serait le fait de constituer, ou plutôt de respecter les régulations internationales et celles concernant les droits de l'homme. En ce qui concerne le blocage, je considère, et d'autres pays me rejoignent dans cet avis, qu'il faudrait demander au conseil d'administration de fournir son avis dans le cadre d'une alerte précoce, car nous sommes inquiets par rapport à ce sujet, notamment par rapport à un string spécifique qui pourrait être bloqué. Donc, quelle serait notre responsabilité en tant que GAC? Et à ce moment-là, il faudrait demander au conseil d'administration de s'en occuper, d'écrire un rapport où il soit dit quels seraient les éventuels effets négatifs ou pas de ce type de problématique. Nous avons d'excellents rapports, mais nous ne pouvons pas encore répondre à cette question. Par exemple, en ce qui concerne les droits de l'homme, nous pourrions demander au Conseil de l'Europe de faire une évaluation pour savoir si un string doit être accepté ou pas du point de vue des droits de l'homme. C'est pourquoi il est important d'avoir cette alerte précoce, car elle nous donne du temps pour résoudre certaines problématiques, certains problèmes. Mais nous aimerions que SSAC nous envoie une réponse à nos questions concernant les strings spécifiquement. Merci pour cette question. Le SSAC ne joue pas un rôle dans le processus TLD en ce qui concerne l'évaluation. Dans le programme des GTLD, il existe une évaluation spécifique sur la stabilité en ce qui concerne la similarité de chaîne. J'essaie ici de trouver dans ce rapport préliminaire les différentes étapes que comporte l'évaluation d'une chaîne, s'il y a la stabilité du DNS, etc. Et tout cela en parallèle aux noms géographiques, aux enregistrements géographiques, etc. Toutes ces évaluations sont faites de façon parallèle. Je suis un peu confus parce qu'il semblerait que ce que vous dites, c'est que vous ne considérez pas que l'évaluation de la stabilité du DNS est suffisamment bonne et vous voulez avoir d'autres types d'évaluations. Je suis un peu confus, excusez-moi. S'il y a une disposition dans le programme de nouveau GTLD, si cette disposition existe-t-elle pour aborder cette question spécifique par rapport à une chaîne, par exemple, s'il y a un blocage et si cela peut porter atteinte à la stabilité du DNS, si ça dans le programme, c'est bien, mais ça devrait figurer quelque part. Est-ce que je pourrais voir cela personnellement avec vous pour trouver une solution et voir quelles sont les conditions nécessaires pour que vous soyez sûr que l'évaluation couvrira vos besoins? Je pense qu'on pourra en parler plus tard, car je pense qu'on n'a pas trop le temps en ce moment. Voilà, on n'a pas le temps, ce serait la réponse la plus courte. En ce qui concerne la stabilité et le blocage des nouveaux GTLD, il nous faudrait nous pencher sur les IDN à caractère unique. Et donc, il devrait y avoir une politique plus publique qui pourrait être intéressante pour ce comité. Nous pouvons conclure. Oui, un dernier commentaire. Je suis membre du GAC du Pakistan. Il y a une suggestion qui a été faite par l'ICANN au comité de sécurité et de stabilité pour que un travail soit fait afin de résoudre la question des problèmes que pose le système de nom de domaine. Voilà ma suggestion et ma question est la suivante. Si on peut dire que l'ICANN est dans la bonne route en matière de sécurité et stabilité, aurons-nous la même approche ou aura-t-il une autre approche dans le cadre de l'introduction des TLD? Je voudrais vous présenter Ramon, c'est le membre qui fait la liaison avec le conseil d'administration de l'ICANN et travaille étroitement avec le SSAC dans ses différents domaines, dans les groupes d'évaluation de la sécurité. Comment s'appelle-t-il déjà ? Oui, l'affirmation d'engagement, excusez-moi, ça m'avait échappé. Merci pour cette question. Je vais paraphraser un petit peu votre question pour voir si j'ai bien compris. Tout d'abord, et aidez-moi si je me trompe, si je n'ai pas bien compris, vous dites si l'approche actuelle qu'applique l'ICANN pour aborder la sécurité et la stabilité des noms de domaine, vous voulez dire si cela est cohérent avec les engagements pris par l'ICANN dans le cadre du AOC. La véritable réponse à cela doit venir de la communauté. L'ICANN a fait un pas en avant très clair en disant qu'elle s'engage à travailler pour la sécurité et la stabilité. Il y a tout un ensemble d'étapes et il y a un tableau de suivi de chacune de ces étapes. Je peux vous dire cela en tant que lien entre le conseil d'administration et le SSAC. Le conseil d'administration a consacré une grande partie de ses efforts et de son temps non seulement à faire un suivi des différents sujets, mais aussi à travailler sur la mise en place non seulement de la lettre, mais aussi de l'esprit de ces résolutions. Il y a un accent mis sur le fait de s'assurer à ce que ce qui a été accordé doit être mis en place de façon à ce que cela puisse se poursuivre à long terme. La deuxième question est de savoir si ESSAC en tant qu'organisation est une organisation adéquate ou est la bonne organisation pour aborder les problèmes de stabilité et de résilience en ce qui concerne les nouveaux TLD qui commencent à apparaître. Le secret connu de ESSAC, c'est qu'il n'a pas de pouvoir, il n'a pas d'autorité, nous ne sommes qu'un comité consultatif. Nous nous réunissons en tant que volontaires ou bénévoles et nous écrivons des rapports. Nous pensons aux menaces, nous réfléchissons aux problèmes qui pourraient exister et nous élaborons un rapport que nous espérons peut être utile. Toute notre influence vient de la valeur du travail que nous faisons. Ce n'est pas moi qui dois dire que le ESSAC est la bonne instance pour faire ce travail. Et lorsque le ESSAC est révisé de façon externe, on a dit que dans sa charte, il y avait une exigence liée au fait qu'il fallait évaluer le risque du DNS et cela est hors de la portée du ESSAC. Et maintenant, cette tâche est sous la supervision d'un groupe de travail du conseil d'administration qui travaille spécifiquement sur l'évaluation du risque du DNS. La charte de ce groupe est déjà complète et jeudi, il y aura un atelier de travail public où l'on invite les membres de la communauté à exprimer leurs opinions sur les risques que l'ICANN doit évaluer lorsqu'il s'agit des systèmes DNS. Une fois que cela sera précisé, ce groupe de travail du conseil d'administration devra émettre une recommandation au conseil afin que le personnel puisse évaluer le risque et la sécurité ainsi que les composantes du DNS. Et cela devra être fait de façon régulière pour s'assurer que ce travail soit également supervisé par le comité de risque du conseil d'administration. Merci pour votre réponse. Nous remercions nos collègues de ESSAC qui nous ont bien informés, comme d'habitude. Et nous espérons pouvoir poursuivre nos efforts en commun afin de mieux comprendre les aspects concernant la sécurité et la stabilité du DNS, qui est certes très lié au travail que mène le GAC. Nous allons bientôt nous réunir à nouveau avec vous plus tard dans la journée. Merci.
For the GAC.